parti courir. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Pas de vacances pour la table des bons vivants. Bien le bonjour les amis. L'été est une belle saison, hein, vous le savez, pour conjuguer les plaisirs de la table. Alors vous pouvez compter sur nous pour faire le tour de nos assiettes. On va voir du pays, tiens, ce samedi, avec un voyage en Sicile, au pays de la cuisine familiale. On vous emmène aussi pêcher le long de nos côtes, de la Limande de la Côte d'Opale, au Sarre de Méditerranée, en passant par le Merlu de Saint-Jean-de-Luz. On va manger et bouger. Voici mes bons vivants du jour. Vous aimez lire ces portrait de chef et ses périples gastronomiques dans le journal du dimanche, c'est Charlotte Langrand, la bien nommée. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Il fait son marché du midi, du lundi au vendredi sur Europe 1 et le samedi, c'est avec nous qu'il se met à table. C'est Olivier Pouls, bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Mais c'est un vrai plaisir que de parler comme ça de ce qu'on mange, de ce qu'on boit durant tout l'été.
Oui,
c'est quand même une activité essentielle de l'été.
Mais c'est l'activité principale, vous voulez dire. Mais bien sûr.
On se lève le matin, tac, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire.
Exactement, et c'est ce que vous faites tous les jours, du lundi au vendredi pendant l'été sur Europe 1 avec votre joli marché du midi. Alors sans oublier les meilleurs coups de fourchette de nos invités, le professeur David Kayat sera là, notre délicieuse auteure culinaire Perla Servan-Schreiber sera des nôtres, et Patrick Bruel et Olivia Ruiz également. Alors, petite mise en bouche, tiens, pour bien démarrer. Posez-vous la question aussi à la maison ou sur la route des vacances. Vous êtes peut-être en train de nous écouter en automobile. Alors, quel est votre goût de la semaine? Je vous la pose, Charlotte.
Alors, nous sommes en août. Nous sommes souvent à la mer et même à Paris. Je vous emmène sur mer. C'est un tout petit restaurant rue de l'Ancry qui vaut le détour. Un restaurant de fruits de mer et de poissons issus de la pêche de petits bateaux avec, Olivier, quelques vins naturels pour arroser le tout.
C'est bien, et parfois, s'ils sont bons.
Oui, des arrivages tous les jours avec en plus une super chef, Olive Davou, qui l'a ouvert en 2017. Alors, outre le plateau de fruits de mer à composer soi-même, vous pouvez par exemple déguster un petit homard bleu avec des nouilles, des pickles de prunes, de l'huile pimentée au basilic et du dashi.
Ah, ce bouillon japonais.
C'est ça. Et un petit tartare de thon blanc, par exemple, crème de burrata, concombre, poivre des cimes, laitue et caviar.
Et c'est ouvert en ce moment?
Oui.
Ah bah très bien.
Allez-y.
Alors pour ceux qui sont parisiens cet été,
rue de l'Ancry,
et pour nos amis qui viennent de nos régions à la capitale, et bien voilà, ça fait partie
oui, et c'est
des
de la pêche raisonnable,
adresses.
C'est tout
oui,
ce qu'on veut.
Pas loin du canal Saint-Martin, on peut se balader.
Exactement.
Ensuite juste après.
Voilà.
Votre goût de la semaine, Olivier?
Eh bien, il est marin aussi, puisque vous savez que cette année, notre grand Georges Brassens aurait eu 100 ans, et pour rendre hommage à Georges Brassens, quoi de mieux que de manger une tielle sétoise?
Ah, alors ça, j'adore ça. Qu'est-ce
une
que
tielle
c'est bon.
Sétoise. Ouais.
Ah, c'est pour ça, la moustache. Mais oui, c'est pour les... Redites,
la tielle sétoise. On ne la mange pas à Pontoise.
Oui, c'est joli. Oui, on la mange à 7, exactement.
Oui, c'est une tourte.
C'est un petit spectacle en prime.
Voilà, une tourte à base de poulpe, dont la pâte est particulière, c'est une pâte à pain dans laquelle il y a, je crois, du vin blanc et de l'huile d'olive.
Exactement, et c'est un poulpe très tomaté. Hein, c'est une, j'adore ça, moi,
c'est
ça
délicieux.
Fait partie des souvenirs d'adolescence. C'est
je
la première fois que je suis allé.
Une.
Ah, bah, avec plaisir, au bord de la Méditerranée, c'est la première fois que j'en avais mangé une et j'adore ça. Mon goût de la semaine, oui. Moi, il est sucré. C'est une mousse au chocolat, mais on va dire version allégée pour tous ceux qui veulent faire attention à leur body summer, comme on dit. Une mousse au chocolat avec un bon chocolat noir, on va dire, allez, 70% de cacao. Et je ne mets pas de beurre et je ne mets pas d'œuf non plus. Je remplace ça par de l'aquafaba.
Et oui.
Vous savez, c'est l'autre buisson de
pois chiche,
voilà, que je fais monter comme ça et avec le chocolat fondu, tout simplement, un petit peu
bien.
De sucre. Et vous laissez prendre 4 heures minimum dans le réfrigérateur. Vous avez voilà, une mousse au chocolat sans lactose pour ceux qui sont intolérants aussi, ça c'est bon à savoir. Alors cet été, hein, vous le savez, nous continuons à balader notre micro sur les marchés. Eh bien, on va parler sous ce samedi. On va parler argent, monnaie. En été, en vacances, c'est vrai qu'on a envie de se faire plaisir, mais le porte-monnaie, justement, n'est pas extensible. Alors sur le marché, vous vous lâchez ou vous faites attention?
Quand j'achète sur le marché, je retire de l'argent et je fais avec. Je fais toujours attention, toute l'année en fait.
Toujours, parce que je ne suis pas riche. Voilà. Alors dans mon cabas, il y a des bananes, il y a des pêches, de la salade, des oignons et des melons. Voilà, je cherchais.
Je regarde surtout que ce soit de province, du pays.
Forcément, on se fait un petit peu plus plaisir, même si je fais quand même attention parce que voilà, je suis jeune, je gagne ma vie. Mais je me fais quand même plaisir sur le marché. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai dépensé 50 euros, il me semble, aujourd'hui, juste pour le marché en tout cas.
Non, on se fait plaisir l'été. Par contre, on mange moins, on achète moins de viande, par exemple, quand même.
Je fais pas attention. Je me permets justement de me faire plaisir et je choisis un peu tout sans forcément regarder les prix. Non, justement, on se lâche pas mal, ouais.
Eh bien voilà, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses, effectivement, dans la façon de faire ses emplettes. Mais c'est vrai que la technique de retirer une certaine somme en espèces et de se dire, ben voilà, quand j'ai plus, j'arrête de dépenser, je trouve que c'est assez efficace, ça.
Et il est très important aussi, avant d'acheter, de faire le tour du marché et de comparer les prix, parce qu'on se rend compte que sur un même marché, sur les mêmes produits, il y a des écarts qui sont parfois assez inexplicables. Et puis quand on va à la fin du marché, il y a parfois l'occasion aussi de profiter de quelques braderies ou de quelques soldes.
Ah bah oui.
Parce qu'on voit
des
légumes un peu abîmés, les producteurs en ont encore, et là on peut négocier les prix.
Si on reste de saison aussi, ça peut quand même rester assez abordable. C'est en général quand on consomme hors saison que c'est beaucoup plus
évidemment.
Cher ou de très loin. Et puis non, moi le seul budget qui augmente peut-être en été, alors que je fais pas trop de viande chez moi l'année, et ben là il y a le barbecue qui rentre dans nos vies.
Les beaux morceaux.
Et puis peut-être des tablés de copains ou ce genre de choses. Donc oui, ça peut augmenter un petit peu à ce niveau-là. Mais sinon sur le reste, oui, des salades, des fruits de saison, des légumes de saison, c'est pas.
Mais faisons comme faisait Jean-Pierre Coff quand il avait 100 francs pour faire ses courses sur un marché. Et parfois avec cette contrainte, on va aller vers des produits qu'on ne cuisinerait pas forcément. On va découvrir des poissons de pêche durable accessibles aussi. Ça vaut le coup, ça, voilà, de maîtriser son budget aussi. Alors, au marché, on trouve aussi de beaux poissons. Restez avec nous, on fait le tour du littoral pour pêcher et cuisiner de beaux poissons de saison, du sard, du turbo et du merlu. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
C'est l'été et les vacances sont une belle occasion de déguster des poissons locaux, pêchés le long de nos côtes. C'est vrai qu'il n'y a pas que le saumon et le cabillaud dans la vie. Et puis la cuisson des poissons fait peur parfois. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça autour de vous, Charlotte et Olivier.
Moi j'ai
Olivier.
Truc hyper fiable pour réussir à tous les coups, c'est de les manger crus.
Bah oui,
alors,
bien sûr.
Tartare,
oui.
Carpaccio, ceviche, en plus c'est l'été, on a envie de fraîcheur. Et la plupart de ces poissons se dégustent particulièrement bien quand ils sont crus. Alors on assaisonne avec un jus de citron vert, on rajoute quelques dés de légumes, de ce qu'on trouve, des radis, un petit filet d'huile d'olive par-de tout ça. Et ça marche à tous les
coups. La dorade, du sard, qui est un cousin de la dorade. Même le maquereau marche très bien aussi en tartare.
Oui, les sardines au barbecue, etc. C'est vrai que oui, maintenant, il y a beaucoup de tartare, de ceviche, de citron vert, de piment.
Sardine crue, c'est plus rare.
Mais ça se mange.
Oui, absolument. Mais moi, c'est vrai que je la préfère cuite, la sardine.
Oui, mais c'est pas si fort que ça. On a tendance à penser que c'est un poisson parce qu'il sent fort quand il cuit. Mais si vous prenez une chair de sardine que vous la faites mariner avec un peu de citron vert, un petit peu de coriandre, quelques baies, tout ça avec de l'huile d'olive, franchement, vous dégustez ça bien frais, une demi-heure après, c'est pas aussi puissant que ça pourrait le laisser penser.
Alors, chers auditeurs, profitons des vacances, justement, pour découvrir des poissons de saison. Ça permet de varier les plaisirs,
oui,
Charlotte.
Oui, s'il vous plaît, de saison, vous avez tous les avantages à prendre un poisson de saison, puisque s'il est hors saison et qu'il provient d'un pays qui ne respecte pas et ne suit pas les normes relatives aux quotas de pêche, et ça vous impacte à plusieurs niveaux, au niveau du goût, au niveau du porte-monnaie, et sachez que ça augmente le risque d'extinction de ces espèces-là. Donc, il faut vraiment être vigilant pour pouvoir préserver les poissons dans nos mers et puis aussi votre goût dans votre assiette.
Oui, il faut être curieux, il faut sortir des sentiers battus un petit peu. Alors, vous connaissez la météo des plages à la télévision, en Suisse littorale avec, je vous propose
c'est
de faire...
C'est la météo des poissons.
Oui, c'est ça, on va faire la même chose. Tiens, aujourd'hui, on va faire une météo des poissons de saison en suivant le littoral. Alors, on va partir du nord, tiens, Olivier, pas loin de votre Belgique natale.
Oui, la Côte d'Opale, la Manche, la mer du Nord, les poissons du Nord. Moi, j'ai souvenir que quand j'étais gamin, on trouvait beaucoup de sole en mer du Nord. Par exemple, en Belgique, on mange énormément de sole. C'est un poisson délicieux. Autre grand incontournable, la crevette grise.
Ah
les petites crevettes grises de la mer du Nord. En ce moment, une tomate crevette avec des crevettes grises de la mer du Nord liées par une petite mayonnaise.
Une petite mayo.
C'est délicieux.
Et les croquettes de crevettes grises, comme on les déguste en Belgique,
absolument.
Ça c'est magique. Ça.
Si on descend dans les Charentes,
par exemple,
vous avez le céto, qui est une espèce qui est quand même pêchée exclusivement sur les côtes de Charente et de Gironde,
en ce moment,
traditionnellement, évidemment. Ça ressemble un peu à la sole, justement, Olivier, mais c'est plus petit, mais tout aussi goûteux. En fait, ce n'est pas la peine d'aller chercher.
On peut en manger
plus
plusieurs, des céto.
Vous avez le maigre aussi, jusqu'à la fin août, si vous voulez, qui est pêché à la palangre ou au filet. Et c'est un peu, ça ressemble un peu au bar. Hein.
Oui, c'est un poisson
cousins,
blanc.
Tout ça.
Oui,
voilà,
exactement.
C'est des cousins.
Alors tiens, direction la baie de Saint-Jean-de-Luz aussi, avec un poisson qui est redevenu abondant grâce à une pêche maîtrisée, et surtout dans le golfe de Gascogne, c'est le merlu.
Donc je sais que vous êtes friand.
Ah, j'adore le merlu. Je suis un dingue du merlu à l'espagnol, comme on le déguste au Pays Basque, vous savez, ouvert en portefeuille avec ce vinaigre basque et puis beaucoup d'ail par-dessus. Et c'est vrai que le merlu de Saint-Jean-de-Luz, lui en plus, est pêché à la ligne, donc on respecte vraiment là aussi des quotas, et puis une espèce qui était en voie d'extinction et qui est redevenue durable justement dans la région. Mais je voudrais qu'on continue, tiens, vers la Méditerranée, direction le port des Goudes à Marseille, avec Cédric et Daniel Reggio, pêcheurs de père en fils. Ils pratiquent le petit métier, comme on dit, c'est-à-dire une pêche avec de la palangre, vous savez, des hameçons tout le long du fil. Petit casting des poissons d'été avec Cédric et Daniel Reggio à Marseille, dans le port des Goudes.
Il y a le sar, c'est très bon. C'est un poisson qui n'est pas très connu, mais c'est un poisson très très bon. La moustelle, c'est un poisson, c'est fantastique. C'est ce qu'on appelle le merlan de roche. C'est, la chair, elle est encore plus fine que le merlan, c'est meilleur.
C'est un poisson qu'on peut donner aux enfants, parce que c'est très fin, c'est très bon. Ça a la chair nacrée, c'est très bon. Par exemple, des grands chefs comme Alexandre Mazia les cuisinent énormément, puisqu'on y en vend beaucoup. Des gros poissons de 1 kg, il se régale à le cuisiner, ça. Voilà, pour lui, c'est des lingots d'or qu'on lui mène. Voilà, c'est très très beau. Le chapon, c'est autre chose, mais c'est très très charnu, c'est très bon. Après, la dorade royale, bien sûr, le denti, le pagre et le poisson bleu, maquereau, à redécouvrir. Beaucoup les poissons de ligne qui sont très 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 beaux et très 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 fermes, très bons. Très bons à la cuisine.
Et une recette, tiens, conseillée pour le week-end, comme ça, facile.
Chapon au barbecue.
Hein, c'est facile, voilà, ça.
C'est très facile. Un peu de graines de fenouil, un peu d'huile d'olive, du gros sel et en avant.
Et ben voilà, ben oui. En avant, voilà, on était bien sur le bateau, retour de pêche. Je les salue, hein, Cédric et Daniel Reggio au port des Goudes à Marseille. Ça, c'est un beau décor de carte postale aussi. Hein. Si vous êtes dans la région, chers auditeurs, ça vaut le coup d'aller se balader là-bas. J'ai découvert cet endroit, moi, cet été. C'est vraiment magnifique. Vos poissons de Méditerranée préférés, tiens, Charlotte?
Bah oui, chapon. Au four, hein, ouais. Tout simplement, le denti. Bon, je ne peux pas vous dire autre chose que le denti.
Oui, c'est la texture d'une viande presque.
C'est ça,
hein,
c'est charnu, il y a de la chair, il y a de la mâche, et puis il y a du goût, donc il y a tout ce qu'on attend. Et puis, bah, j'aime bien les rougets aussi, mais j'avoue être un peu plus flemmarde pour les préparer, parce qu'il y a quand même pas mal de...
Ouais.
Un petit peu plus de boulot, sauf si vous avez une recette à nous donner pour...
Bah, vous demandez...
pour vraiment...
Ah bah, la recette, c'est que je demande au poissonnier de lever,
oui,
de lever les filets, parce qu'il a toujours un couteau bien aiguisé, et puis le geste alerte qui
c'est
va
ça,
avec.
Faut leur demander, et puis après...
Mais c'est vrai que le rouget, on l'a souvent déjà dit ici, c'est ce qu'on appelle la bécasse de la mer, parce qu'on peut le cuire entier, en fait.
Hein. Voilà.
Même pas écaillé, comme ça, sur le barbecue, même pas vidé, et effectivement, son intérieur va effectivement renforcer la puissance de sa chair,
elle
qui a déjà du goût.
Hein. Oui, elle va lui donner un goût très intéressant. Moi, j'aime aussi la dorade royale. Je parlais tout à l'heure de poisson cru, un carpaccio de dorade royale. C'est royal, c'est le cas de le dire. Ça fait partie, je trouve, de ces poissons de Méditerranée qui sont parmi les plus fins. Il y a le loup, évidemment, celui qu'on appelle le bar, de l'autre côté, en Atlantique, qu'on appelle le loup en Méditerranée, qui lui est aussi poisson assez cher, mais poisson terriblement noble et délicieux.
Avec du fenouil aussi et flambé au pastis, c'est délicieux ça. Alors dans le reportage, tiens, Daniel nous parlait des poissons bleus. On en trouve sur tout le littoral cet été, hein. On peut le rappeler à nos auditeurs, Olivier. Hein.
Et c'est des poissons qui, là pour le coup, sont très abordables, hein, puisqu'on est autour de 6 euros le kilo. C'est des poissons qui sont pleins d'oméga 3, donc excellents pour la santé. On pense par exemple aux sardines ou aux maquereaux. Franchement, les sardines, en ce moment, c'est l'été, c'est la pleine saison, c'est un pur régal. Il n'y a pas besoin d'ouvrir des boîtes. Hein.
Nous
on
sommes
prend
d'accord.
Les sardines fraîches.
Et des anchois aussi, hein. C'est la saison des anchois, ça c'est magnifique, ça, des anchois frais. Quel bonheur. Tiens Charlotte, pour terminer, quand on n'habite pas sur les côtes, une autre façon d'acheter du poisson frais, eh bien, c'est de se faire livrer.
Ben oui, on n'est pas puni, on peut aller se faire livrer, par exemple, par Poiscaille. C'est un réseau très très bien, le maillage est très très bon sur tout le territoire. C'est frais, c'est durable, c'est éthique. Et sinon, vous avez aussi le site Pour de Bon, c'est une plateforme qui recense pareil un grand nombre de petits producteurs qui proposent des poissons et des fruits de mer plutôt
éthiques,
de petits pêcheurs. Donc renseignez-vous, pas loin de votre lieu de vacances actuellement, il y en
a
forcément.
Et pour tous ceux qui ont la chance d'être en vacances au bord de la mer, faites l'arrivée des bateaux. Vous les accueillez, ils débarquent devant vous, vous achetez au cul du bateau, comme on dit.
Le marché de Carreau à Carry-le-Roi, pour rester dans la région, là, c'est magnifique, on a plein de beaux étals. C'est l'été, mangeons du poisson. Allez, ne bougez pas. On passe à table, tiens, dans un instant, avec de grands auteurs, juste après la pause. Il y aura du beau monde. Alexandre Dumas et Colette, entre autres, rien que ça. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors, avant de se régaler avec les plaisirs de la cuisine sicilienne, on vous emmène au théâtre, mais alors là, sans bouger du transat. Pendant le confinement, Charlotte et Olivier, vous souvenez, la Comédie-Française ouais. a eu envie de continuer de jouer. Et ça, c'était une très belle initiative. Vous n'êtes plus sociétaire de la Comédie-Française, Olivier, du temps que j'y pense.
Non, c'est vrai qu'ils ne m'ont pas rappelé, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. J'attends une proposition pour un rôle.
Alors, cette année, les sociétaires ont mis en scène la cuisine des auteurs. C'était une pièce filmée et interprétée par la troupe de la Comédie-Française sur YouTube. Au menu, la cuisine d'Alexandre Dumas, les coups de fourchette de Colette, les coups de gueule aussi en cuisine de Marguerite Duras. Alors on écoute justement un extrait dans lequel Michel Villormoz joue Honoré de Balzac et Daniel Lebrun joue une Marguerite Duras. Vous vous souvenez, Charlotte, hein, très à cheval sur la soupe de poireaux pommes de terre.
Fallait pas rigoler, hein. Ah oui.
À vos crayons. Une cocotte, vous versez 1,5 litre d'eau salée, mettez les pommes de terre. Oui. Lorsque l'eau arrive à ébullition, vous ajoutez les poireaux coupés en tout petits morceaux.
Oui. Hein.
Couvrez.
Oui.
Laissez cuire 20 minutes.
C'est tout.
Toutes les femmes françaises font trop cuire les légumes et les soupes.
Mais c'est vrai.
Oui. Après, ça perd la couleur.
Ça
perd les vitamines.
Oui, puis on aime bien avoir un petit peu de mâche, comme on dit, un peu de texture. C'est drôle. C'est Daniel Lebrun qui interprète Marguerite Duras.
Ça aussi, c'est une recette vintage, hein, vous voyez.
Oui, ça marche
un
bien.
Conseil, voilà.
Poireaux pommes de terre, c'est un joli mariage.
Vous mixez aussi après ou pas?
Alors, il y a plusieurs écoles. Ouais. Moi, j'aime bien le potage parisien, où la pomme de terre est taillée en toutes petites lamelles et le poireau juste émincé. Vous les faites revenir dans du beurre tous les deux et vous mouillez avec de l'eau. Et ça, c'est super, le poireau et la pomme de terre. Alors, à propos, tiens, ça m'a donné envie de jouer avec les mots et les mets. Je vous propose un petit quiz. Alors, chers auditeurs, vous allez pouvoir jouer à la maison ou dans votre voiture. C'est le quiz des écrivains bon vivant. Plusieurs questions. Ah, on a même la musique, voilà. Jean-Luc Arblade. Ah oui, il est allé chercher le générique de Qui veut gagner des millions. Il a raison, Jean-Luc.
Et on gagne quoi, Laurent?
À Dico. Alors, on va gagner un joli pomelo. Tout le monde connaît la Madeleine de Proust, mais dans ses premiers textes, dans la recherche du temps perdu, Marcel Proust envisageait plutôt...
Une biscotte.
Une tartine de pain grillé avec du beurre ou un sablé breton?
Une biscotte, une tartine de pain.
Une tartine de pain grillé avec du beurre, vous dites, Charlotte?
Ouais, pareil.
Vous êtes d'accord? J'ai une bonne réponse. Absolument. C'est en 1907, c'est le jeune Marcel qui s'est amusé à raturer et à reprendre son manuscrit. Mais d'abord, effectivement, il avait pensé une tartine de pain grillé avant de se fixer sur cette fameuse Madeleine. Bonne réponse, ex aequo. Deuxième question. Complétez cette phrase de Colette. C'est pas la peine de vous mêler de cuisine si vous n'êtes pas capable d'un peu... Réponse A, de gourmandise. Réponse B, de sorcellerie.
De sorcellerie.
Ouais, je trouve que c'est un joli mot, c'est vrai.
Ouais.
Voilà, il faut
c'est
se laisser super. Inspirer un petit peu comme
mais
ça.
Mais il y a un peu de sorcellerie dans la cuisine.
Mais il y a de la sorcellerie,
bien absolument. Il y a un petit peu de remède magique.
Avant-dernière question. Dans son dictionnaire, imitateur d'imitateurs, dans son dictionnaire de la cuisine, quel animal Alexandre Dumas a vu dans les assiettes des Parisiens? Réponse A, de la girafe. Réponse B, de l'éléphant.
De l'éléphant et du pied d'éléphant même.
Bah dites donc, c'est précis ça.
Ouais.
Vous validez aussi Charlotte?
Je valide.
Bah dites donc, ex aequo tous les deux, exactement. Ah ouais. Et on en a parlé ici avec un historien il y a peu de temps. Effectivement, en 1870, les Parisiens n'avaient plus de viande. Donc on est allé chercher les animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes et on a mangé dans le bistrot à côté, au café voisin. Ça s'appelait comme ça, c'était le chef Alexandre Choron qui a fait des pieds d'éléphant. Et dernière question, George Sand, ambassadrice du Berry, adorait le poirat. C'était quoi? Une tourte aux poires, d'accord, un peu particulière, mais avec un ingrédient secret. Lequel? La cardamome ou le poivre?
La cardamome, allez.
Je veux dire le poivre, comme ça on va se départager.
Voilà. C'est Georges Sand qui va vous donner la réponse elle-même, incarnée par la comédienne Claude Mathieu qu'on retrouve sur la chaîne YouTube de la Comédie-Française.
C'est tout simplement une tourte aux poires à base de pâte brisée, joliment dorée sur le dessus. Et légèrement parfumé de poire.
Ah.
Et
bravo, bonne idée.
Le million pour Olivier Pouls.
Allez, je partage mon pomelo, je suis seigneur.
Sans même appeler un ami.
À Absolument, du beau boulot, sans faire appel à un ami, comme vous dites, Charlotte. Alors, petite précision, tiens, chers auditeurs, on remet nos pendules à l'heure. Le spectacle La cuisine des auteurs est en tournée en ce moment dans une déclinaison en plein air, Charlotte.
Oui, c'est ce qui est génial avec le théâtre, ainsi, il se décline sous toutes les formes. Donc là, on retrouve votre ex-confrère, donc Olivier Pouls, sociétaire de la Comédie Française, Jérôme Pouli, cette fois-ci dans un seul en scène de son propre cru. Et il fait ça à bord d'un food truck. Non seulement il joue la comédie, mais il vous prépare la cuisine sous vos yeux, sous les yeux des spectateurs, et il convie même les maraîchers et les éleveurs locaux.
Un grand acteur.
Ah oui, un grand acteur, assez franchement jouissif.
Il reprend la tradition du théâtre de Molière qui se déplaçait de ville en ville, ce théâtre itinérant sur des tréteaux et tout ça. C'est un petit peu le Jean-Baptiste Poquelin du moment,
exactement.
Jérôme Pouli. Hein. Allez voir vraiment son spectacle qui est en tournée. Hein.
Vous voulez quelques dates?
Ah oui.
Alors le 22 août à Saint-Bertrand de Comminges en Haute-Garonne, le 24 août à Couzex dans l'Ariège et le 3 septembre à Ax-les-Thermes dans l'Ariège aussi.
Eh bien voilà, ça vaut le coup. Ça, c'est un beau spectacle qui passe à côté de chez soi et en plus, en plein air, donc il n'y a pas de problème pour les gestes barrières. Il faut les respecter quand même, mais ça fait du bien. Prenez un maillot et des lunettes de soleil, on s'envole en Sicile à la découverte d'une cuisine rassembleuse et ensoleillée. Bref, une cuisine de vacances. Mamma mia, à tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon été, bonnes vacances hein, sur Europe 1. Bonne route si vous êtes sur celle de votre lieu de villégiature.
Bon apéro pour ceux qui ont la chance d'y être.
Et comment ? Alors la majorité des Français a choisi de rester en France pour les vacances, mais quelques-uns ont eu des envies d'Italie. Ça, c'est vrai que la cuisine est toujours très attractive.
On leur jette pas
les champions d'Europe.
Et puis l'euro, c'est ce que j'allais dire. Ils ont bien joué, hein, les Italiens. C'était un match de dingue. Hein. Quand j'y repense encore, ce match jusqu'au tir au but, c'était vraiment du grand, grand football. Alors en Italie, il y a une île réputée aussi pour sa cuisine de mama. Vous me voyez venir, hein, une cuisine authentique et généreuse. C'est la Sicile. Et nous avons reçu, il y a quelques semaines, le chef Ignacio Messina du restaurant Les Amis des Messina à Paris. Vous en souvenez, Olivier
hein? Ah ben, un peu. Que je m'en souviens, mes papilles et mon palais s'en souviennent aussi. Les aubergines de sa grand-mère, les pâtes à la chapelure, le carpaccio de poulpe.
Oui.
Il a mis Yves Candebordes, avait vidé son assiette, je m'en souviens. On n'avait même pas eu le temps de se retourner.
C'est vrai qu'Yves était conquis aussi l'été de la partie et c'est vrai qu'Ignacio Messina n'est pas venu les mains vides. Écoutez.
Bonjour à tout le monde.
Vous êtes le chef des Amis de Messina, qui est une institution parisienne, c'est rue Réaumur, c'est une belle maison familiale dans laquelle on mange de jolis plats de la cuisine sicilienne. Et vous venez nous voir avec un livre qui s'appelle, pareil que le restaurant, Les Amis des Messina. Un très très beau livre aux éditions de La Martinière. Alors, c'est un livre qui nous plonge aussi dans l'histoire de la Sicile, parce que c'est une île qui a vécu. Et c'est aussi, en plus d'être un livre de recettes, un livre de belles histoires de transmission, notamment dans votre famille, Ignacio.
Exactement. Ils ont commencé avec la lasagne verte, ensuite la bottega sicilienne. Ils avaient juste une vitrine, ils préparaient ce qu'on a mangé toute notre vie à table. Et tous les clients profitaient de cette simplicité, de ces produits. Mes parents cuisinent vraiment très bien. Hein.
Oui, ils donnent toujours un coup de main d'ailleurs au restaurant.
Alors exactement.
On va faire un petit inventaire tiens, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément bien la cuisine sicilienne. Des produits et des plats typiques pour vous, vraiment indispensables de cette belle cuisine sicilienne, familiale et authentique, comme on le disait.
Alors, chez nous, par exemple, moi, ce que j'adore, paradoxalement, ce sont les herbes. Je dirais qu'en Sicile, ce qui est important, c'est le basilic, la menthe, le persil, le romarin, le laurier. Évidemment, l'ail et l'oignon, très important. L'huile d'olive est peut-être mon ingrédient préféré. Et on a des belles variétés d'huile d'olive, comme dans toute l'Italie. En Sicile, il y a une très belle production d'huile d'olive.
Mais justement, qu'est-ce qui différencie réellement la cuisine italienne de la cuisine sicilienne ?
Peut-être l'histoire, puisque la Sicile a été une île qui a été particulièrement
habitée et colonisée même.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait un gros intérêt pour la Sicile. Par exemple, quand il y a eu parmi les nombreuses dominations, la domination arabe en Sicile qui était une domination très importante, Palerme était le port économique le plus important d'Europe. Et il y avait plein d'épices, de parfums et de produits qui venaient du monde entier.
Ouais. Les Normands, les Espagnols, les Grecs, les Romains, Tout cela, à un moment ou un autre, les Arabes colonisés et apporté leurs influences dans cette île qui est une espèce de concentré géant de tout ce que l'Europe a pu faire, même au-delà.
Hein. Une île magnifique qu'il faut vraiment avoir vue une fois dans sa vie. Cefalù, Noto, Syracuse, Palerme, Taormine, ce sont des ambiances différentes avec une richesse d'un patrimoine architectural qui est absolument dingue, inouï, et une cuisine qui est absolument incroyable. Cette cuisine que vous avez appris avec votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle vous a appris, votre grand-mère, à Cefalù, tiens, Ignacio, comme plat, comme recette, que vous faites encore aujourd'hui?
En fait, c'était très varié. Le souvenir que j'ai d'elle, c'est que je l'avais une cuillère en bois, une petite casserole en aluminium. Elle avait un quatre-feu tout petit au gaz. Et tous les jours, c'était des choses différentes. Beaucoup de poissons, énormément de légumes. Nous, notre cuisine, c'est des verdures, des légumes. La Sicile est très
grand.
Une terre très fertile. Donc, en fait, il y a tout qui pousse partout. Après, selon la terre, le produit va changer un peu.
Je le disais, aujourd'hui, vous êtes à la tête des Amis des Messina à Paris, donc une cuisine sicilienne typique qui est servie au restaurant. Quelques incontournables, tiens, de plats de la cuisine sicilienne pour donner envie et des idées à nos auditeurs. Quelques noms de plats, juste comme ça. Pour
alors, l'antipasti maison, qui est vraiment une variété qui aujourd'hui encore existe, qui est le même depuis 20 ans dans le faubourg Saint-Antoine, c'est un plat qui a des légumes, des aubergines grillées, simplement au four, des petits arancini. Donc, c'est la spécialité du street food sicilien.
Boule de riz farci, hein.
Exactement. Les panelles, ce sont les petites galettes de pois chiches. C'est notre spécialité du street food palermitain. Après, si je vais dans...
La caponata aussi.
La caponata, exactement. Voilà. Le pane cunzato, qui est une recette que j'ai mis dans le livre. C'est du pain qu'on appelle cunzato, ça veut dire arrangé. C'est du pain maison. Donc, à l'époque, ma grand-mère nous faisait ce pain le jour de fête. On le découpait une fois sorti du four. On mettait de l'huile d'olive, des filets d'anchois, de l'origan et du fromage, des pâtes dures.
Mamma mia.
On le découpait, on le mangeait tout chaud. Et donc, nous, dans nos restaurants, on les propose encore.
À propos du pain, ce que j'aime beaucoup, moi, en Sicile, quand j'y vais, c'est cette chapelure qu'on met partout, comme ça, sur les pâtes. C'est typique de la cuisine sicilienne, ça.
Non seulement c'est typique, pour moi, c'est un ingrédient très important. Ça relève, ça donne du caractère, c'est croustillant.
Oui, c'est une chapelure particulière, elle n'est pas sèche.
C'est une chapelure à base de blé.
En fait, nous, le pain qui reste, nous, on a... Dans mes cuisines, j'apprends, comme vous savez, chef, on ne jette jamais rien. Donc, quand le pain reste, il devient dur, on fait la chapelure. Cette chapelure-là, on l'a fait torréfier à la poêle avec de l'huile d'olive. On y met juste des filets d'anchois finement coupés.
Ouais.
Et à la fin, juste une petite cuillère de sucre pour caraméliser un peu.
Elle est incroyable, elle est croustillante, elle est moelleuse, elle est sublime, cette chapelure. Voilà. Rien qu'un plat de pâtes, simplement l'huile d'olive et cette chapelure, vous avez un plat.
Mais quelques petits filets de sardines.
Eh bien, exactement. Allez, ne bougez pas, chers auditeurs. On passe aux travaux pratiques, justement, dans un instant, avec une belle recette sicilienne qu'Ignacio Messina nous a apportée et que vous pourrez même refaire ce week-end. Tiens, à tout de suite et bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Palerme, Cefalù, Syracuse, Noto, Taormine, on célèbre la cuisine sicilienne ce samedi matin, une cuisine de produits de saison brute et élégante. Ignacio Messina, le chef du restaurant Les Amis des Messina à Paris, est avec nous. Alors bah tiens, justement, il n'est pas venu les mains vides, Ignacio, racontez-nous ce que vous avez apporté là, on a de jolies choses qui arrivent.
J'ai amené un carpaccio de poulpe, j'ai amené une aubergine, celle de la grand-mère. Lo sfincione, la pizza sicilienne. Alors, je voulais amener aussi un peu de pâtes, hein, puisqu'on est quand même.
Elles sont belles, ces pâtes qui sont un peu comme des grands macaronis tortillés.
Ça s'appelle busiata trapanese. C'est des pâtes maison. Nous, nos pâtes, on produit tout à Réaumur, tout est fait maison.
Et avec la fameuse chapelure.
Exactement.
Ah, cette chapelure dont on parlait avant la pause, absolument. Ouais.
Dans les pâtes, j'ai vu que vous avez commencé par les pâtes. En fait, c'est une sauce, on fait revenir des oignons. J'ai mis juste du pesto de fenouil sauvage, qui est un ingrédient important dans notre cuisine, quelques anchois et de la chapelure.
Et votre carpaccio de poulpe, là, il est incroyable parce qu'il est taillé très finement.
Il est très moelleux, parce que le carpaccio de poulpe, ça peut parfois être un peu caoutchouteux. Là, il est moelleux, non.
En fait, tout est de la cuisson, pour moi, le chef peut le confirmer.
Et Dieu sait que c'est compliqué à cuire du poulpe, c'est très délicat.
Exactement, donc il faut vraiment de l'expérience, et puis il faut faire attention à la taille du poulpe, parce que si les poulpes sont petits, c'est pas la même
cuisson. Combien de temps de cuisson, là, par exemple?
Les cuissons, on les contrôle, parce que nous, on a une cuisson particulière, c'est-à-dire qu'on fait bouillir de l'eau, on met le poulpe, et on calcule la cuisson jusqu'à qu'il refroidisse dans son eau-même. C'est-à-dire qu'à peu près, c'est une demi-heure de cuisson, on éteint le feu, et on le laisse refroidir dans l'eau. Une fois que l'eau est froide, on ressort la poulpe, donc il faut vraiment calculer le temps. Parfois, on se trompe. Hein.
Ça peut traîner un long moment. Sinon, on avait vu que c'était 4 heures à petit frémissement pour le poulpe. Mais il y a plusieurs écoles.
Surtout qu'il y a plusieurs poulpes. Quand c'est les petits poulpes de 1 kg, c'est vrai que les 35-40 minutes peuvent suffire. Mais ce que je crois que c'est le plus important, quel que soit le poids du poulpe, c'est impérativement laisser le poulpe refroidir dans la cuisson. Il ne faut pas le sortir, le laisser, voilà.
Exactement.
Comme on dit, tirer. Quoi. C'est-à-dire que la température va monter à l'intérieur.
D'ailleurs, on arrive souvent à 3 heures lorsque l'eau est froide. Donc, c'est, de la
c'est ça, ça revient pratiquement au même. On parle de l'importance de la famille chez vous en Sicile et notamment dans votre famille, les Messina, puisque vous êtes arrivé en France. Vous avez monté petit à petit ces petites échoppes qui sont devenues des restaurants et ensuite une belle saga familiale. Papa et maman sont repartis en Sicile ou ils sont toujours...
Là, ils sont en Sicile depuis le début de la pandémie. Ils en profitent. Ils sont retournés à Cefalù.
Ils sont retournés à Cefalù, mais je sais qu'ils donnent toujours un petit coup de main en cuisine. Votre père est le roi de la saucisse au fenouil, par exemple.
Oui, on l'a mis
dans le livre.
Dans le livre aussi. Alors là, mon père, au moment, il était dans le Faubourg Saint-Antoine et il préparait avec ma soeur. Ma mère, elle a travaillé avec moi en cuisine à Réaumur pendant 5 ans. Ils étaient un peu fatigués. Donc là, ils profitent. Ma maman, elle cuisine tous les jours. Pour nous, pour elle, pour mon père.
Le gâteau de courgettes de maman, racontez ce gâteau de courgettes.
Eh bien, elle voulait faire un cake à la carotte. Elle n'avait pas de carottes, elle avait des courgettes dans le frigo. Elle a mis les courgettes, elle l'a aimé. Et puis, elle a rajouté la ricotta fraîche par la suite. C'est devenu le dessert le plus demandé dans nos restaurants.
Et il est dans le livre, on pourra le refaire. Les amis des Messina.
En tout cas, ce que je peux vous dire, ce que vous nous avez amené là, c'est vraiment très bon. C'est validé. Par Yves Camp de Bord, parce que moi je mange vite. Hein. J'ai la réputation de finir mes assiettes assez rapidement. Mais là, ça fait au moins 2 minutes.
Il balance.
Montre en main que Yves va rectifier.
C'est vrai.
Totalement mais ses assiettes.
Je vous ferai remarquer, Olivier, que c'est la façon, malheureusement, qu'on a à manger les cuisiniers.
Quand c'est bon, on mange. Bah oui.
Et alors, moi, j'ai l'aubergine que vous avez apportée. Et c'est une recette que vous tenez de votre grand-mère, hein, cette
Exactement,
aubergine.
C'est très simple. En fait, c'est une recette typiquement sicilienne, maison, on va dire, de notre province, hein, de notre ville. Je pense qu'elle est faite aussi ailleurs. En réalité, c'est une aubergine frite. Alors, la variété de l'aubergine, c'est la violette. Ce qu'on appelle, nous, la tunisienne, c'est la ronde, violette. On la découpe 3-4 heures avant, on la met avec
un peu de sel.
Un peu de sel.
À dégorger, mais.
Dégorger un peu.
Un peu longtemps, j'ai vu dans le livre. Hein. C'est 6 heures que vous laissez dégorger.
Oui,
hein.
Exactement. Ah, on peut la laisser même 24 heures. Ouais, de toute façon. Et puis, on la fait frire dans de l'huile d'olive, à l'aller-retour.
Oh, c'est bon, ça.
Et on prépare de la sauce tomate. J'ai donné notre recette de sauce tomate dans le livre, ce qui est très important. Et donc, une fois que l'aubergine est froide, alors évidemment, on peut la manger chaude. Quand on a fini de la frire avec la sauce tomate, mais j'aime beaucoup la manger froide. Et l'été, on les prépare la veille, on les mange le jour après, on les apprécie beaucoup.
Ça donne pas envie de partir en vacances en Sicile, ça, messieurs, franchement. Et à propos, tiens, c'est vrai que certains auditeurs, je suis sûr, vont partir en Sicile cet été. Quelques adresses que vous pourriez leur conseiller comme ça, parce que la Sicile est aussi une belle terre d'agroturismo, ses équivalents, on va dire, de ferme auberge, mais encore plus confortable, avec une vraie culture de la terre tout autour.
Exactement. Ça s'appelle la Manna di Zabra. C'est un garçon qui est extraordinaire parce qu'il a des chambres tout simples, mais il a une connaissance de son territoire. Il vous fait une salade, il va dans son
jardin,
champ, et puis il prend des pousses, il vous explique ce que c'est de A à Z.
De la terre à l'assiette, c'est ça qu'on aime.
Beau terroir de vin aussi, la Sicile. On aurait pu boire un blanc sec du cépage Grillo, qui est un des cépages typiques de Sicile. Moi, j'aime beaucoup le Nero d'Avola, qui est là aussi l'autre grand cépage
au pied
typique.
De l'Etna, il y a de beaux vignobles.
Sur l'Etna même, qui donne des vins de grand caractère.
Eh ben, merci infiniment d'être venu, Ignacio Messina.
Merci, amis des
Messina, c'est aux éditions de La Martinière avec de beaux textes de Philippe Toinard. Il y a plein de belles recettes familiales, authentiques et généreuses. Il y a la sauce tomate dont on a parlé, il y a le gâteau de courgettes de la maman, il y a ces aubergines de la grand-mère, il y a les pâtes au fenouil. Enfin, voilà, ce sont les vacances, c'est l'Italie et c'est la Sicile qui est une très très belle terre. Merci Ignacio Messina.
Merci de m'avoir reçu.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Merci d'être là. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, hein, comme tous les samedis, vous le savez. On vient de se régaler avec les plaisirs de la cuisine sicilienne et on continue avec d'autres plaisirs, ceux de la table, partagés avec nos invités. Et vous le savez, hein, tous les samedis, nous recevons des bons vivants, des chanteurs, des écrivains, des comédiens, des journalistes. Et ce samedi, on vous a préparé un beau casting d'été. Vous allez découvrir un Patrick Bruel, amateur et connaisseur de vin, vous vous souvenez, Olivier, hein ?
Et d'huile d'olive aussi.
Et d'huile d'olive, producteur d'huile d'olive, absolument. Olivia Ruiz est une fine cuisinière, vous entendrez. La délicieuse Perla Servan-Schreiber nous a régalé avec un plat du jour parfumé, un curry. Il embaume encore.
Il embaume encore. Et puis c'est pour les grandes tablées.
Ça, c'est vrai que ça marche bien, ça, pour les grandes tablées. Et on commence, tiens, par les bons conseils du professeur David Kayat. Alors, son régime, vous allez entendre, est avant tout celui du plaisir.
Écoutons, je l'ai adopté.
Écoutons le professeur Kayat, un professeur bon vivant.
Vous avez raison, j'ai cette envie de vivre et cette joie de vivre que j'ai. Elle me vient d'avoir assisté à tellement de morts. En 45 ans de pratique de la cancérologie, j'ai vu mourir des milliers de mes malades. Et donc, je me suis dit que s'ils avaient un seul message à me délivrer avant de partir, c'était vous qui êtes vivant, profitez de ce don merveilleux qui est la vie. La vie, ça ne se résume pas, de mon point de vue, au temps qui passe entre la naissance et la mort. Mais la vie ne trouve son sens que dans la capacité qu'elle nous apporte de générer des souvenirs dont on aimera se rappeler à la fin.
Du plaisir.
Des souvenirs positifs, des moments de bonheur. Et or, ce que j'ai vu, c'est cette évolution de notre pensée dominante dans la société d'aujourd'hui qui va vers un hygiénisme vraiment qui dépasse les bornes. Parce que je vois bien, aujourd'hui, c'est quoi ? On vous dit, il ne faut pas manger de sel, ça donne la tension. Il ne faut pas manger de gras, l'athérosclérose. Il ne faut pas manger de sucre, ça nourrit les cellules cancéreuses. Pas de viande, parce que ça donne le cancer du côlon. Pas de charcuterie, pareil. Pas de vin, ça donne toutes les maladies. Pas de soleil, les cancers de la peau. Mais à un moment donné, deux secondes. Moi, je veux vivre. Et mes malades, quand je leur dis, faites de la chimio, faites tout ça pour vivre, c'est parce que c'est pas juste vivre une heure de plus, c'est que dans cette heure, il faut qu'il y ait du plaisir. Sinon, cette vie-là, la leur comme la mienne, n'a plus aucun sens. Donc oui, je revendique le fait d'être à la fois un médecin et un vrai médecin depuis 45 ans qui soigne les corps, mais parce que ces corps, ils doivent être l'outil pour avoir du bonheur.
Exactement. Alors, vous êtes un professeur de médecine, mais vous êtes aussi un cuisinier. Et la cuisine, c'est vraiment important pour vous. Après avoir connu des moments difficiles, comme vous le dites, avec vos patients, c'est une bulle, la cuisine, pour
Complètement. C'est la seule activité où je laisse mon téléphone de côté. J'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait que je sois là pour mes malades. Donc, j'ai toujours le téléphone à côté de moi et mes malades m'appellent ou les confrères qui ont besoin de moi. Mais quand je cuisine, je mets de côté, d'abord pour une raison simple, c'est que je cuisine vraiment. Je crois que ceux qui me connaissent le savent.
Je confirme.
Il est venu manger chez moi.
Grand
cuisine. Mais je cuisine vraiment. Or, j'ai pas de commis, j'ai pas de chef de partie, j'ai rien. Donc, pour arriver à dresser l'assiette au dernier moment, que tout soit prêt au bon moment, il faut vraiment que je coordonne. Hein.
Alors justement, tiens, vous cuisinez beaucoup, on va en parler là jusqu'à midi et demi. Mais quel est votre goût de la semaine, David Kayat ? Que ce soit à emporter, peut-être en click and collect ou à la maison.
Oui. Écoutez, j'ai mangé il y a deux jours un sublime pigeon avec une petite sauce aux truffes, avec des pommes paillasson, un morceau de pommes paillasson.
C'est bien ça, les pommes paillasson. C'est vrai que c'est, on en fait moins. C'est le restaurant justement où on a envie de manger des pommes paillasson.
Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que justement par rapport à cette vente emportée, ce click and collect, c'est des recettes qui réapparaissent parce que c'est des recettes qu'on peut réchauffer.
C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est au départ, on les a un peu abandonnés parce que c'est une forme de banalité. C'est des pommes de terre qui sont râpées, assaisonnées et après cuites dans un petit poêlon. Donc c'était assez banal. On n'en faisait plus. On s'est remis à faire ça parce que ça voyage et ça se réchauffe.
Alors Hippocrate disait que ton alimentation soit ta première médecine. C'était au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors Yves Condebord, que vous connaissez, professeur Kayat, n'est pas médecin, mais il est chef. Lui aussi, il soigne les âmes, mais en cuisinant. Et cette semaine, Yves, vous avez décidé de mettre des aromates dans nos plats parce que c'est bon pour la santé.
Et oui, parce que c'est bon pour la santé. Et puis c'est vrai que on a tendance souvent à les mettre qu'en décor. Tandis que là, on les intègre dans la cuisine et c'est bon. Si je vous dis ail.
Ah, vous êtes blessé ?
Non. Prévention cardiovasculaire, Laurent.
Bien sûr.
Sauge.
Oui.
Aide à la digestion.
C'est bien ça.
Persil, antioxydant. Et le sommet, c'est le basilic. Facilite le fonctionnement des neurones. Ça rend intelligent.
Oui, et vertu antidépressive, moi j'ai souvent vu sur le basilic. C'est pour ça que je me gaffe de pesto. Moi, c'est formidable. Ça donne la pêche, le basilic, c'est vrai. Hein.
Écoute, l'ail, ça contient un truc qui s'appelle l'allicine, qu'on trouve également dans les oignons. Et cette allicine, elle est même anti-cancer. Moi, j'ai fait un livre qui s'appelait Le vrai régime anti-cancer, où j'ai repris tous les aliments clés et notamment celui-là. C'est, les brocolis sont pleins de vitamine C et luttent contre le cancer du côlon. Dans la nature, on trouve à la fois ce qui donne le cancer, comme les feuilles de tabac.
Bien sûr.
Mais on trouve aussi ce qui soigne le cancer, comme la pervenche de Madagascar, on tire un médicament extraordinairement puissant contre le cancer.
Le thuya.
Et effectivement, l'IF, c'est-à-dire ce que vous appelez le thuya, ça ressemble, c'est l'IF du Pacifique. Ou alors, en même temps, la prévention. Donc, on a dit, ça donne, ça traite, mais vous avez aussi, ça prévient. Et dans les animaux s'y trompent pas quand ils font leur alimentation naturelle. Ils savent prendre, selon leur état de santé, ce qu'ils ont besoin.
Donc, sans modération, tout ça, alors, Yves ?
Alors, sans modération, je vous le redis, ce n'est pas fait pour décorer. Ça doit intégrer, ça doit pratiquement être l'une des matières principales des plats. Des choses très simples.
Allez-y.
On va prendre, Laurent, une cuisse de poulet et des carottes. J'ai envie de manger sain aujourd'hui. Je vais les cuire à la vapeur. Je mets ma cuisse de poulet, je la cuis 20 minutes à la vapeur, je rajoute mes carottes coupées en morceaux, 7-8 minutes, voilà, j'ai poulet, vapeur, avec carottes.
C'est bon, assez. C'est bien, mais c'est un peu triste.
Bah, on se croit un peu à l'hôpital.
Ouais,
je
rêver,
sauf que, je vais vous faire rêver.
La sauce.
Sauf que, je les sors, je prends une botte de coriandre, avec un ciseau, je ne me complique pas à vouloir les effeuiller, on ne perd pas de temps. Je coupe ma botte de coriandre, je mélange à mon poulet et à mes carottes un trait d'huile d'olive, du sel, du poivre. Et de suite, j'ai donné de l'âme. J'ai donné
et
du
un
goût.
Peu de cumin et un filet de citron. Et on est au Maroc.
Exactement, hein, Laurent. Mais exactement. La coriandre va amener une fraîcheur extraordinaire. Toutes ces herbes, on les utilise, on ne les cuit pas. On les rajoute à la dernière minute. Une dernière recette très simple, un bouillon. On a du bouillon de pot-au-feu. On prend de la menthe et du basilic. On coupe pareil au ciseau, menthe et basilic. Et on rajoute ça, mais en grosse quantité dans le bouillon. Ça reste un pot-au-feu. Mais sauf c'est un pot-au-feu qui a une âme supplémentaire et c'est un pot-au-feu qui est plaisant, qui est original.
Eh bien,
n'hésitez
voilà.
pas, ce n'est pas des décors, on les met dans la cuisine et en quantité.
Mettez des herbes, voilà, mettez des aromates un petit peu partout, ça fait du bien. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Pour les moules.
Ah, en silicone.
Gras et gras, il n'y a plus d'espoir.
Eh les amis, je ne sais pas si les gens le savent, mais la farine, il faut la mettre d'un coup en fait.
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants. Ça coupe le gras comme ça avec l'acidité. J'adore. Laurent Bariotte.
Et je ne suis pas tout seul. Charlotte Langrand est des nôtres. On se sait toutes.
Présente.
Et Olivier Pouls également.
Mais présent aussi.
Alors nous avons parlé dépenses et recettes sur nos marchés au début de l'émission. De la Côte d'Opale à la Méditerranée, nous avons parcouru le littoral pour pêcher les poissons de l'été. Vous retrouverez toutes ces références sur europe1.fr. C'est la même adresse pour vous abonner au podcast de l'émission. Et nous revoilà, tiens, avec les meilleurs moments partagés avec nos invités ici au Studio Coluche. Alors cette année, Patrick Bruel est venu nous voir. Vous connaissez le chanteur, l'acteur, mais vous allez découvrir ici le producteur d'huile d'olive et le grand amateur de vin. Olivia Ruiz nous a ouvert la porte de sa cuisine et la chanteuse et romancière est aussi la reine de la béchamel allégée, je peux vous dire, et de la canette aux pêches. Mais pour commencer, voici Perla Servan-Schreiber. Cette auteure culinaire est une voyageuse, elle est venue nous voir avec un curry parfumé, une recette extraite de son livre Enjoy, un carnet de recettes et de voyages. Eh bien, enjoyons.
J'ai mis deux saisons dans le livre pour ne pas trop compliquer les choses pour les lecteurs et lectrices.
Printemps, été, automne-hiver.
Voilà, il y a l'été et l'hiver.
Un petit peu de printemps aussi quand même. Hein,
oui, bien sûr, mais il faut coller à la saison. Ça, c'est quand même la règle de base. On n'arrêtera pas de le répéter. Inutile de vous acheter des figues en mars. Voilà.
Des cerises en février.
Parce que, voilà, patientez, vous dégusterez mieux les choses.
Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie, Perla Servan-Schreiber. Vous avez fait beaucoup de voyages, au Japon notamment. Vous les évoquez aussi dans ce livre. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette belle cuisine
Alors,
japonaise?
Au Japon, je vais vous dire, parce que moi je suis une fanatique de riz. Et c'est quand même un produit qui est magnifié dans chaque pays de manière différente. J'étais dans un restaurant avec mon mari, tout petit restaurant, absolument comme ils savent en faire, où on était seuls, il y avait une table et puis
une claustra.
Oui, c'est ça, un claustra. Et puis à la fin, alors évidemment, il y a la petite dame magnifique qui arrivait avec tous les petits plats inouïs. Et à la fin, arrive le chef, en blanc, mais nickel comme les chefs
comme
peuvent
aujourd'hui.
L'être. Comme les chefs peuvent l'être. Et sur une petite table, avec un poêlon à l'intérieur duquel il y avait un bol exceptionnel, il nous sert un riz dont le parfum m'habitera, j'espère, jusqu'à ma dernière heure et même au-delà. Et un parfum exceptionnel, et c'était le dessert.
Et c'était quoi?
On ne nous a pas servi du tout de riz
en garniture,
pendant le repas,
oui.
Mais il est arrivé avec ça pour dire combien la majesté était là.
D'offrande.
Seule. C'est l'offrande
absolue.
Et le
riz était naturellement parfumé, ce n'était pas un parfum qui avait été ajouté.
Non, le riz était naturellement parfumé, il était nacré, il était mais sublime. Voilà. C'est une de mes plus grandes émotions.
Votre cuisine se nourrit de plusieurs influences aussi. Vous aimez bien mixer, c'est votre côté DJ un petit peu des fourneaux.
Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien mixer, voilà. Puis j'ajoute un petit grain personnel. Mais c'est vrai que je m'inspire évidemment de ce qui existe. Je ne peux rien inventer comme ça totalement. Moi, oui, personnellement, pas du tout.
Vous faites rencontrer mais plusieurs cultures.
Voilà, j'aime beaucoup ça. Et dans ce livre, il doit y avoir des plats de 11 pays différents.
Alors, c'est le cas du plat du jour que vous avez apporté pour nous, qui est un joli curry à l'indienne que vous avez fait. Alors, racontez-nous quels sont les ingrédients qui composent ce curry que les auditeurs pourront refaire ce week-end. Écoutez bien, chers auditeurs.
Absolument. Alors, ce curry est à base de fruits. Il y a de la banane, de la mangue et de la pomme granny.
J'allais vous dire, il y a une très belle acidité.
Oui, parce que c'est bien acidulé. Ouais.
Voilà. C'est bien relevé. Elle vient d'où cette belle acidité, effectivement.
Ben, l'acidité vient un peu de la granny, mais d'un peu pomme de citron vert à la fin. Il y a très peu de tomates, mais il y en a. Et puis tout ça mijote tout doucement, bien sûr, avec du curry et du gingembre. Je mélange du massalé et une pointe de cannelle. Évidemment, c'est encore la marocaine qui est là.
Qui revient et on le mange avec le nez d'abord.
Et on le mange, voilà. Ça, c'est quand même très agréable. Qu'est-ce que j'ai oublié ? De la coriandre à la fin et un peu de lait de coco.
Et alors, ce n'est pas la saison de la tomate. Évidemment, on peut avoir recours à des tomates concassées. Hein. Tomates concassées qu'on doit au grand Auguste Escoffier, d'ailleurs.
Ah, oui.
Qui a eu la bonne idée de les mettre en boîte.
Tomates concassées, bien sûr. Tomates concassées. Et celui-ci, je l'ai fait à l'agneau. Mais non pas l'agneau comme en dés, vous voyez, ou en morceaux. Mais de l'agneau haché.
Ah, c'est pour ça qu'il y a une rondeur aussi dans la bouche.
Que je mets à la dernière minute, comme ça, émietté, parce que ça fait une sauce formidable. Et c'est presque. En fait, ce curry, je le sers avec du gratin de macaroni.
Ah, joli!
Mais le gratin de macaroni, ça ne se réchauffe pas. Donc,
Mais c'est vrai ce que vous dites en le mangeant, justement.
C'est une sauce.
J'ai été interpellé parce que je me disais, c'est un curry, mais la viande, c'est une viande hachée, on dirait un peu. La texture du hachois basque.
Un petit peu, l'hachois de veau.
Qui est fait un peu de la même façon.
Oui, je ne connais pas.
Et c'est vrai que c'est très agréable parce qu'on a une rondeur et surtout, on a une saveur qui est globale. La viande a vraiment épousé toutes les saveurs.
Oui. C'est harmonieux.
C'est harmonieux.
Voilà, quand on a un morceau de poulet ou un dé de poulet ou un dé d'agneau, c'est pas du tout la même chose en bouche, en tout cas.
Mais la preuve que vous aimez jouer avec la nourriture, c'est le cas de le dire, parce que vous mixez les influences. Dans votre livre, le curry, il est au poulet. Et là, vous êtes venu nous voir avec cette recette que vous avez déjà modifiée avec de l'agneau.
Quand un livre sort, il est déjà périmé pour moi.
Laurent, on ne parle pas du riz. Mais moi, je le trouve tellement...
Il est délicieux. Délicieux.
Comment vous aimez mon riz ? C'est ma grande fierté.
Mais je trouve qu'il est tellement équilibré.
Ça, c'est mon riz debout. Il s'appelle le riz debout.
Alors, comment vous le faites ?
Alors, c'est du riz rond de Camargue qu'on cuit dans beaucoup d'eau, comme des pâtes, avec du sel, et on les cuit 10 minutes. Puis, on les goûte immédiatement et on le refroidit totalement sous l'eau froide. On laisse bien égoutter. Puis, dans sa casserole ou son poêlon ou ce qu'on veut, on fait fondre du beurre, on le remet dedans, surtout sans l'écraser.
Oui, parce qu'il est bien égrené.
Avec une fourchette, voilà.
Vous l'égrainez ? Moi,
égrené, on couvre. Et on laisse à peu près une vingtaine de minutes. Et là, c'est la vapeur du beurre qui le chauffe.
Qui finit sa cuisson. C'est magnifique. On retrouvera la recette sur europe1.fr. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, rapidement, Olivier Pouls ?
Moi, avec les currys, vous savez qu'il n'est pas trop relevé, mais moi, j'aime les vins légèrement doux. J'irai bien dans la Loire, voyez-vous, avec un Vouvray demi-sec ou avec un Chenin.
Un Mont-Louis ?
Un Mont-Louis, mais pas trop liquoreux. Hein. Vraiment, avec une dizaine de grammes de sucre, ça me suffit.
Oh, je suis ravie. Oh là là, je suis très flattée.
On vous met la recette, hein, chers auditeurs, sur europe1.fr. C'est divin. Ne bougez pas. On revient avec les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls sur Europe 1.
On va te manger une deuxième assiette.
Et un troisième curry.
Il balance.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
On se met à table ce midi avec une star de la chanson et du cinéma. Patrick Bruel est notre invité. Bien manger, c'est important hein, pour vous, Patrick. Mais le vin tient une place aussi importante. Hein.
Oui, mais quand on disait bien manger en bonne compagnie. Et boire du vin en bonne compagnie.
Sinon, on n'apprécie pas le moment.
Oui, je pense que c'est le terrain de rencontre, le terrain de prédilection des rapports humains.
Mais vous avez des oliviers, est-ce que vous avez des vignes?
Oui, oui, ah, on a planté l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, et on a fait notre première récolte, qui est une récolte test, alors on verra un peu ce qui se passe. On se dirige sur un assemblage Syrah Grenache Cabernet, petite touche bordelaise dedans.
Le Cabernet n'est pas régional, hein, c'est le non, petit clin d'œil.
Oui, c'est le clin d'œil bordelais.
C'est de la fusion.
Voilà.
C'est ça. Bientôt votre cuvée alors.
Quel est le casting de votre cave, Patrick Bruel? Qu'est-ce qu'on trouve dans votre cave?
Grand éclectisme, très heureux de découvrir des nouveaux terroirs, des nouvelles régions, des nouveaux propriétaires. Des jeunes vignerons.
Vin nature, la biodynamie, tout ça, ça vous parle, les sans sulfite, sans intrants chimiques?
Oui, bien sûr, puis c'est l'avenir, puis c'est très intéressant. Mais voilà, sur le Rhône, beaucoup de tendresse pour Stéphane Montez, pour Stéphane Augier. Ah,
Saint-Joseph, magnifique.
Voilà, le Saint-Joseph, la cuvée du papy, c'est bien.
Ah,
bien,
ça, c'est beau, ça.
Voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et puis la Bourgogne, mais la Bourgogne nous flatte tellement. J'ai la chance de boire hier soir, vraiment, une grande chance de boire...
Jolie Bourgogne, vous l'avez sur votre téléphone, là, c'est ça?
Oui, je l'ai parce que j'ai pris en photo. Parce que
je sens que ça va nous énerver.
Oui, ça va nous énerver parce que finalement, quand on dit Beaune Romanée, quand on dit Clos du Château, et quand on dit Monopole, on peut penser à un domaine, mais finalement, il y a un domaine qui est peut-être un petit peu moins connu, qui est Ligier Bel Air, et qui est absolument phénoménal. C'est eux d'ailleurs qui avaient vendu la parcelle de la Tâche à la Romanée-Conti.
Et qui possède toujours la Romanée.
Et c'est vraiment, ça a été mon coup de cœur de la semaine.
Vous nous dites que vous êtes curieux en ce qui concerne le vin, et bien ça tombe bien parce qu'Olivier va vous faire goûter un vin inattendu. Alors écoutez, chers auditeurs, parce que c'est un vin auquel, comme la définition le dit, on ne s'y attend pas. Racontez-nous ce vin, ça vient d'où, c'est quoi, Olivier?
Je vais vous laisser goûter, parce que la dégustation à l'aveugle, c'est quand même marrant de s'amuser 5 minutes, même si franchement, si vous arrivez à trouver ça, vous gagnez mon respect éternel, parce que c'est vraiment très très très
ça
compliqué. Il y a un piège.
Ça a la couleur d'un pinot, Patrick.
Oui.
Le piège est là, c'est qui est-ce qui travaille aussi bien le pinot noir et qui visiblement n'est pas en Bourgogne, puisqu'il y a un piège.
Bah écoutez, vous avez gagné, mais alors pour ce qui est de trouver la région, c'est franchement...
Est-ce qu'on est en France?
Oui, on est en France.
Ah, on est en France.
On est en France, oui. Mais dans une région totalement inattendue pour trouver du pinot noir et surtout du pinot noir de cette qualité.
Au nord de la Loire.
On n'est pas en Bretagne quand même.
On n'est pas loin, on est en Normandie.
En Normandie.
Mais non.
On est en Normandie. Formidable. Alors, la Normandie, c'est plutôt le pays
des pommes. Sentez bien une petite pointe de
pomme. Ça sent la pomme.
Il y a la pomme.
Eh ben, je vous garantis qu'il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Et c'est une histoire assez incroyable. Alors, le domaine s'appelle Les Arpents du Soleil. En 1995, ce petit vignoble était replanté. Alors, on le doit à Gérard Sanson, qui est un ancien notaire, qui avait fait toute une série de recherches, notamment sur le fonds normand à Caen. Il avait découvert qu'au Moyen-Âge existait un petit vignoble dans ce village de Grisy, qui est une 30 kilomètres au sud de Caen. Vignoble qui a disparu, bien évidemment, avec la crise du phylloxéra. Et il s'est dit, mais finalement, si ce vignoble a existé, il doit bien y avoir une raison. On ne plantait jamais de la vigne par hasard. Donc il a fait des études de sol. On s'est rendu compte que ce terroir était extrêmement similaire au terroir qu'on pouvait trouver en Bourgogne, c'est-à-dire des argilo-calcaires. Il a replanté un demi-hectare en 1995. Il a ensuite augmenté un petit peu la superficie. Aujourd'hui, je crois qu'il y a entre 6 et 7 hectares de ce tout petit vignoble. Et c'est vraiment travaillé à la bourguignonne. Alors, il a planté du pinot noir, mais il a planté d'autres cépages en blanc. Il a planté de l'auxerrois, il a planté du pinot blanc aussi. Non, il n'y a pas de chardonnay. Peut-être ça viendra.
Ben oui, parce que...
Mais ce serait logique, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'en plus, il faut bien avouer que le réchauffement climatique l'aide probablement un petit peu, puisque c'est un vignoble qui est planté au sud, qui bénéficie d'un très joli ensoleillement. Et vous l'avez vu, à l'aveugle, c'est impossible de le situer, évidemment. Et on a cette trame bourguignonne dans le vin. Et cette finesse du pinot, cette élégance.
Et en plus, quand vous aviez dit ça tout à l'heure, mais que vous savez qu'il y avait un piège, je vous ai posé la question sur l'étranger, mais sans y croire. Je ne peux pas penser qu'en Australie, ou en Napa Valley, ou n'importe où, où on fait du pinot noir, on ne fait pas ce pinot noir-là. C'est typiquement français, celui-là.
On aurait une chaleur beaucoup plus prononcée sur l'Australie.
Là, c'est formidable. Félicitations au producteur.
Ah, puis il fallait trouver celui-là.
Gérard Sanson, c'est ça.
Hein. Gérard Sanson, Les Arpents du Soleil.
Ça coûte combien?
Alors, ça se trouve, il y a une e-boutique où vous pouvez les acheter en ligne, pour aller sur place, évidemment. Ça coûte autour de 10-12 euros la bouteille. C'est des bouteilles de 50 centilitres parce qu'il n'en produit vraiment pas beaucoup. Donc, c'est tout à fait acceptable. Mais il fait des magnums aussi.
Oui, ça, c'est tout ou rien. Quoi.
Voilà, il fait des magnums.
Parce que c'est un vin qui a un besoin d'évolution. Donc, en
mini-bouteille, ça peut se garder 5-10 ans sans aucun souci. Je ne suis pas inquiet du tout quant à l'évolution de ce vin.
La patronne d'Europe 1 veut passer des commandes. Je me sens très
intéressé. Mais comment? Je me dis,
du vin rouge normand, du pinot noir, il y en a combien par an, des bouteilles?
Sur 7 hectares, il y a pas beaucoup.
Il a 7 hectares, et en plus, sur les 7 hectares, il y a différents cépages. Donc là, on est probablement sur quelques centaines de bouteilles de pinot noir seulement. C'est ultra confidentiel.
En plus, il a pris une forme
cylindrique.
Alors là, c'est le millésime 2016 qu'on a goûté, vous voyez, le vin à 4 ans, et il se tient encore parfaitement droit.
Et il en fait des magnums, et comme dirait Gabin dans Un singe en hiver, un magnum, vu qu'on est deux. Voilà, c'est ça.
Surtout si l'autre ne boit pas beaucoup.
Exactement. À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Allez, reviens à la maison. Je te ferai des crêpes aux champignons. Caille-moi les hanches. À la hache, j'ai trop mangé de chocolat.
Manger, boire, aimer, Olivia Ruiz. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on vous invite
danser,
à cette table.
Et peut-être, et chanter, je rajouterais.
Oui,
moi.
Vous pouvez. Mais c'est pour ça qu'il fallait que vous soyez là autour de cette table ce samedi. Parce que
mais pour
c'est
être honnête, Laurent, je fais vraiment peu de choses en dehors des choses intimement liées à mon œuvre. Et là, mais la question n'a pas eu le temps d'être posée. Tout le monde s'est étonné que je dise absolument, je serai chez Laurent Mariotte, j'y tiens beaucoup.
Et ben, ça nous fait plaisir, ça nous fait très plaisir. C'est quoi la recette des crêpes aux champignons que vous chantez d'ailleurs, c'est la ficelle picarde ou c'est autre chose?
Alors non, je ne fais pas du tout ça, je ne suis pas très fan des champignons de Paris, c'est plutôt c'était la référence à la crêpe industrielle pas bonne qu'on nous donnait à la cantine quand
bien
on
sûr.
Était petit parce ah, que la femme...
Béchamel. Avec la béchamel,
c'était
bien
terrible,
grasse.
C'était terrible, mais j'ai dû en faire aussi simplement béchamel, je faisais faire hurler Yves, mais comme moi je suis grosse mangeuse, je trouve toujours des astuces pour faire les choses à plus basse calorie. Parce que j'ai besoin de quantités très conséquentes.
Bah, tu as raison complètement.
Ah, mais chacun adapte sa cuisine à ses envies et ses besoins.
Et du coup, j'ai une petite recette de béchamel sans beurre.
Ah, vous la faites
à base
comment?
De fécule de maïs. Ah, pareil.
Fécule de maïs, ouais.
Un demi-litre de lait, 40 grammes de fécule de maïs. Et j'ajoute le beurre que pour le goût, un tout petit peu à la fin. Donc voilà.
Ah, la béchamel light, ça existe. On a appris quelque
mais
chose.
Mais ça marche, franchement. Alors, bien évidemment, c'est pas aussi bon, on peut pas se mentir. Mais ça fait le job dans les lasagnes complètement, par
et puis,
exemple.
C'est de la chimie, la cuisine. Donc voilà, cette fécule, elle remplace la farine. Mm-hmm. Ça marche pour ceux qui sont allergiques au gluten, en plus, votre béchamel.
Oui, bon.
La cuisine est présente dans vos chansons, on vient de l'entendre, hein, Olivia.
Incroyablement présente, oui. Je m'en rends compte avec votre petit...
montage de Jean-Luc Arblade, que nous saluons, qui est un fan de la crêpe béchamel d'ailleurs au passage. Il y a aussi dans votre dernier livre un très beau passage où votre grand-mère, après s'être absentée de son foyer, tente de reconquérir l'amour de ses proches grâce à la cuisine. C'est une belle séquence ça.
Bah oui, elle a plus de porte d'entrée, elle s'est absentée longtemps de la vie de son enfant et du père de son enfant et elle a trouvé un petit trou de souris où se glisser à travers sa cuisine, elle peut exprimer et sa culpabilité, et son amour, et son envie de les reconquérir.
Ma grand-mère, depuis toujours, c'est elle qui décide, elle qui nous mate, elle est comme sa cuisine. D'abord, elle te tente irrésistiblement, te surprend, puis te violente de son tempérament épicé. Et quand le repas est terminé, pourtant, c'est une saveur suave qui te reste dans la bouche, rassurante parce qu'elle te donne l'impression d'être aimée passionnément. Un joli extrait de votre livre, page 14, c'est au début, voilà, donc une grand-mère. Elle existe ou pas, cette grand-mère?
J'ai eu deux grand-mères formidables. Une qui était une très bonne cuisinière, qui est toujours en vie, mais alors qui ne s'engage plus du tout à nous faire rêver nos papilles depuis de longues années, d'ailleurs, si elle m'écoute, pas sûr. Et l'autre, l'été, assez forte en pâtisserie, la canette aux pêches.
Canette aux pêches,
eh oui.
Oh, c'est bien ça.
Mais que c'était bon.
Yves Candebord,
et avec, elle la faisait avec la peau hyper croustillante, bien fondant à l'intérieur. C'était un délice.
Bientôt à table. Mais pour l'instant, c'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants, Olivia. Quel est le goût de votre enfance, Olivia Ruiz?
Eh bien, c'est justement le flan aux œufs de ma grand-mère Rita. Et alors, je comptais sur toi, Yves, pour me donner l'astuce. Pourquoi, quand ma grand-mère faisait son flan aux œufs, elle avait toujours plein de petits trous dedans qui donnent cette texture si particulière? Pourquoi, moi, j'ai pas les petits trous, même quand je passe 3 heures à battre le truc pour y mettre de l'air dedans?
Non, mais c'est pas dû, je pense, à la préparation
c'est
de
la
base.
Chaleur.
Non, c'est par rapport à la cuisson. Alors, j'ai envie de te dire que quand on fait un flan aux œufs qui a les trous dedans, pour nous, dans la pure tradition gastronomique française, c'est un défaut. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ton bain-marie s'est mis à bouillir, et le fait que ça boue, ça fait plein de trous. Donc il faut que tu mettes ton four plus chaud, que tu
et
fasses
pourtant,
bouillir.
Mais cette texture.
Ah, mais c'est ça, je pense que ça va être ça.
Et tellement particulière,
ça
d'accord.
Doit, ça doit l'aérer et quelque part aussi, ça peut te faire coaguler un peu les jaunes.
Et du coup, le caramel coule un petit peu à l'intérieur, ça fait.
Et ouais, parce que le fait qu'il y a une ébullition, donc tout doit remonter.
Mais pourtant,
sur le...
il restait hyper compact. Avec
ah non, mais ça restera compact, mais il sera plein de petits trous.
Ouais, ben voilà.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable, Olivia?
Pour mes 35 ans, je crois, chez Anne-Sophie Picard à Valence.
Très belle table.
Voilà. Et puis, c'est une anecdote rigolote. Mon amoureux de l'époque n'était pas du tout un bon mangeur. Il aime que les choses très, très simples. Et puis, j'y vais quand même avec lui. Là, il fait une...
crise de foie.
Ouais, enfin, il tombe super malade. Bon, et pourtant, un moment magique et le meilleur moment... Certes, le repas, un voyage unique. Et ensuite, eh bien, j'ai passé la soirée assise sur la terrasse avec vue sur les cuisines d'Anne-Sophie, wow. Dans un silence presque d'église où de temps en temps, on entendait juste des petits rires. À voir la chorégraphie, le ballet de danseurs, là. Enfin, vraiment, aujourd'hui, je pourrais me l'offrir à nouveau parce que je prends la mesure du privilège que c'est de vivre un moment pareil, quoi.
Votre pire repas, Olivia Ruiz?
Je vis sur les routes, Laurent. Donc, des pires en repas, c'est un jour sur deux.
Je vois venir, c'est le sandwich triangle dans les stations-service, quand même
non,
pas.
Ça, moi, non. J'ai définitivement renoncé. Je préfère me galérer, partir avec un tupperware de la maison. Mais les salles, parfois, on a un accueil qui est exceptionnel. Et puis, quelquefois, on arrive, on a le truc en plastique, là.
Les barquettes industrielles, oui,
voilà,
bien sûr.
Et là, moi, ça, c'est le genre de choses qui me fout en l'air, quoi. Parce que je mange bien, je suis performante. Je mange pas bien, je ne le suis pas. C'est l'équation.
C'est pareil,
est... très simple, ben oui.
Mais évidemment.
Avis à ceux qui vont vous recevoir.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte?
Paella ou la fideuà, parce que selon la recette, on a tout. On a les fruits de mer, on a des légumes, certains mettent des petits haricots plats, des poivrons, des oignons. On a un féculent, c'est le plat complet par excellence, et puis on voyage, quoi. Certains mettent du lapin, du
la
poulet.
La fideuà, c'est avec des vermicelles, mais c'est une très bonne réponse.
Voilà.
C'est la première
pas
fois qu'on me répond ça.
Pas vraiment des vermicelles, hein. c'est les pâtes qu'on met dans la soupe de poisson, quelquefois. Ouais. Ouais, des macaronis plus serrés. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
C'est entre le vermicelle, le spaghetti, c'est un peu plus gros.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Dans les invités de mon dîner idéal, tout le monde est en cuisine. Donc il y a Gilles Goujon, il y a Yves, il y a Michel Sarran et il y a Anne-Sophie Pic, bien évidemment. L'idée, c'est qu'on soit tous en cuisine et ensuite qu'on prenne... notre pied, grâce à la compète qu'on aura orchestrée entre ces quatre cadors.
Bon, c'est malin.
On
invite tous mes amis. Mais cap, alors là, cap. Et on le fait à l'auberge. À l'auberge du Vieux Puy, chez Gilles, parce que c'est
à
chez moi.
Dans les Pyrénées-Orientales.
Voilà.
Très belle adresse.
Et que je n'ai jamais eu. C'était le cadeau que je comptais m'offrir pour mes 40 ans, le 1er janvier. Et puis bah voilà, un peu les grèves, un peu le Covid. Je n'ai toujours pas eu le plaisir d'aller à cette table alors que j'ai un amour immense pour ce personnage, parce que c'est un personnage.
Et le mot de la fin, F-A-I-M.
Un plateau de fromage avec une bonne salade du jardin, je suis heureuse. Un super chocolat avec un super rouge, je suis heureuse.
Le bonheur en
cuisine. Et un pancan tomate et avec un vrai bon ail de Garonne, je suis heureuse. Ouais.
Merci Olivia Ruiz, une vraie bonne vivante on peut dire, hein. Et puis elle consomme local, hein, ça fait plaisir.
Oui, elle s'y connaît. Ouais.
Oui, et comment tiens, c'est l'été, on a le temps de bouquiner, je vous recommande La commode au tiroir de couleurs aux éditions Lattès d'Olivia Ruiz, un très très joli roman. Et bien on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là c'est l'été, les vacances, alors profitez-en, faites le marché, la cuisine et...
le reste.
Et le reste, capital. Allez, bon week-end sur Europe 1, dans un instant c'est Europe Midi.